joue des choucris. Paris, Billancourt et Saint-Denis, on dit partons enfin là où la vie est la
Inoubliable. si tu t'en vas, n'oublie pas ton ombre. Mais si tu reviens, oh les mains.
Pas de gland, à mes joues, pas de barbe. Je ne veux pas d'enfant pour consoler ma mort. Pas de petits mutants, pas de petits médors. Je ne veux pas d'enfant qui sèche au tableau noir, à la guerre de 100 ans, au fond d'un réfectoire. Pas d'enfant au cure.
La musique.
Banana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Victoriaville, au Québec, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, bizarres, étranges et autres formes de création curieuse. Première partie de notre périple québécois avec mon ami Christophe. Avant d'aller à Montréal, nous étions au Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Alors, en ce qui concerne Montréal, on en a parlé la semaine dernière. Toutes mes excuses, je me suis trouvé pris dans les perturbations dues à un drame dans les transports en commun franciliens. Ce qui fait qu'on a commencé l'émission la semaine dernière avec 35 minutes de retard. L'émission était consacrée à Norman Nowotzki. Alors, cette semaine, nous sommes à l'heure, à peu près. Nous parlons à nouveau du Québec. Le FIMAV, donc, est un des festivals les plus fameux pour les musiques qu'on diffuse dans notre émission. Et personnellement, je rêvais d'y aller depuis des années. Et voilà qu'il y a des choses faites. Conjonction d'une promotion chez Air France, d'un ami tout à fait partant et d'une programmation alléchante cette année, on n'en a pas hésité à y aller. Alors, du reste, quatre groupes français étaient au programme. Qui d'ailleurs ont tous les quatre fait sensation. Je vais les citer. Pour les Junko Ueda, les Marquises avec Tom Malmandier et Emily Schriegel. Auto Reverse, c'est le duo de Nina Garcia et l'ami Arnaud Rivière. Et Norg. Et en toute modestie, je signale que ces quatre formations sont passées dans notre émission. Voilà. Alors, on a débuté l'émission avec la très bonne surprise de la première soirée du festival, après Poil et Ikuemori, qui n'étaient ni les uns ni les autres, pas du tout des découvertes. Il s'agit de Zo Amba, excellente saxophoniste, assez jeune, très jeune même, 23 ans. C'est l'étoile montante de New York, découverte par John Zorn, qui a signé son premier disque qui s'intitule « Ocean » sur son label « Zadik ». Le programme joué à Victoriaville s'appelait « Bhakti ». C'est également le nom du deuxième et actuellement dernier disque de Zo Amba. Elle est très bien entourée par un trio de musiciens hors pair. Je vous signale qu'elle sera en Europe à Lisbonne le 2 août, à Saalfelden en Autriche les 19 et 20 août, et enfin à Wilisow en Suisse le 31 août. Trois festivals prestigieux si vous avez l'occasion de voyager en Europe cet été. On va écouter maintenant l'entretien avec Michel Levasseur, créateur et programmateur du festival. Alors, on avait un temps limité, hein, qu'on a d'ailleurs dépassé allègrement. Donc j'ai ciblé les questions et on va d'abord parler de la création du festival du FIMAV.
Michel Levasseur.
Oui, c'est moi.
Comment s'est créé le FIMAV en 1983? Quelles étaient vos motivations au départ, toi et ton équipe? J'imagine que tu n'étais pas seul.
Non, c'est ça. Ben, on était un genre de petit groupe de six personnes tous des gens qui habitaient ici à Victoriaville. Puis moi, je suis revenu dans la région en 82, en fait. Puis après 6-7 ans en Écosse, de l'autre côté, là, au-dessus de l'Angleterre, puis j'ai redécouvert ma région, puis j'ai pris racine tout d'un coup, j'ai repris racine. Puis il y avait beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup d'artistes de la région, beaucoup d'artistes de l'arrêt de Montréal, des grands centres qui allaient en campagne. Les campagnes ici sont pleines de monde là, qui ont construit leurs propres maisons, tout ça. Ça s'est fait beaucoup dans les années 70, début 80. Puis là, ben, j'étais intéressé par la musique, puis on a formé ce groupe-là, on a mis 50 $ dans une cagnotte, puis donc 300 $ canadiens, puis on a présenté des spectacles, des concerts de musique, disons, non populaire, pour animer notre région, mais aussi pour nous, évidemment, de la musique folklorique, de la musique classique, aussi de la danse contemporaine, parce que j'avais des amis à Montréal qui s'occupaient de danse, puis il y avait deux organismes, Québec et Montréal, qui faisaient de la musique un peu plus avant-gardiste, obscure à Québec, le groupe Obscur, puis à Montréal, Traquenard. Puis là, il y avait une petite tournée Montréal-Québec, puis Matane, vers Rimouski-Matane. Puis là, ben, je les ai contactés. Puis, ils présentaient Fred Fritt, Tom Cora. C'était le premier concert de production plateforme, notre organisme. Évidemment, ça a été tout un choc culturel pour bien des gens ici. Moi, je connaissais Fred Fritt j'avais vu Henry Cow en Écosse, puis j'avais vu Derek Bailey aussi, Company, même Jerry Garcia, puis Grateful Dead, des concerts qui m'avaient marqué en Europe. Ici, avant de partir, c'était Frank Zappa qui est venu à l'Expo mondiale à Montréal, mais aussi j'étais vraiment, moi, un amateur de musique, auteur-compositeur, les chansonniers, comme on les appelait ici au Québec, bon, puis évidemment les Français et les Jacques Brel, etc., etc. Bon, donc j'ai un goût pour la musique. Puis on présente ces concerts-là la première année, on perd pas d'argent, rien, mais quand même il y a pas d'avenir à faire des petits concerts comme ça, de changer de lieu à chaque concert. Et là, l'idée d'un festival est venue. C'est vraiment pour rester chez nous, puis trouver une façon de vivre en région de la culture. C'était ce qui nous a poussé à faire ces démarches-là. Finalement, on a monté un festival, on l'a appelé tout de suite Musique Actuelle, parce que on savait ce qu'on voulait pas. On voulait pas être un festival de jazz, de rock, de musique contemporaine, tout ça. Puis le mot actuel était utilisé dans les années 80 au Québec pour les arts visuels, la danse, plus pas pour la musique. Donc on s'est dit, tiens, c'est musique actuelle, musique de son temps. Puis bon, c'était très ouvert comme proposition, puis on sait pas ce que ça veut dire non plus, vraiment. J'ai été des années à essayer de répondre c'est quoi la musique actuelle. Faut pas me poser cette question-là maintenant. Puis finalement, ben, on fait nos demandes de subvention. Il existait au Québec, la majorité des festivals les plus anciens ont une quarantaine d'années. Le festival de jazz, il y a 42, je pense. Bon, la Naudière, tout ça. Parce qu'il y avait des programmes pour des événements, pour créer des événements. Évidemment, nos demandes ont été toutes refusées. On voulait faire le festival au mois d'octobre, puis c'était tout refusé. Dans l'été, j'ai eu l'idée de contacter l'Orchestre symphonique de Montréal, qui, à ce moment-là, avait des programmes musicaux pour aller en région, puis disséminer la musique actuelle, bon, etc. C'était l'époque de Charles Dutoit. Puis j'ai un rendez-vous avec l'administration. Ils sont intéressés par le projet. La seule date qu'ils ont disponible, c'est au mois de décembre. Puis là, je rappelle tous les musiciens qui étaient pour venir au premier. J'avais une programmation de fête, puis évidemment, personne n'avait de concert la semaine du 13 décembre. C'est que tout le monde n'a pas de tournée loc de prévu. Les 12 concerts se déplacent en décembre et on présente le premier festival de musique actuelle à Victoriaville avec l'orchestre symphonique qui joue une pièce contemporaine d'un compositeur québécois, Étu, je pense. Puis finalement, on attire 1500 personnes au Colisée, à l'Arena ici. Puis 1500 personnes distribuées dans les 12 autres concerts. Donc c'est un succès, on ne perd pas d'argent, tous les gens sont bénévoles, même la technique, même le graphisme, tout bénévole. Puis là, ben, évidemment, c'est de refaire l'événement, puis de continuer, puis au troisième, moi je suis là depuis les débuts, je suis le seul qui est resté tout le long. Puis, au troisième, on a pris le nom international, parce que là, déjà, il y avait quand même des musiciens étrangers, il y avait un public qui commençait à venir des États-Unis, surtout les médias. On a attiré beaucoup l'attention des médias, une bébite là, qui ne savait pas qu'est-ce que c'était, puis finalement, ben, d'aiguille en... comment on dit ça? D'aiguille? Non, de... En tout cas, il y a une expression en québécois. De fil en aiguille.
Ah oui, de fil en aiguille.
Ça existe-tu en France? Oui, de fil en aiguille. De fil en aiguille, on est là encore après... en fait, 40 ans, moi, ça fait 41 ans, là, ça s'est formé en 82, l'organisme, premier festival en 83. Puis on a arrêté deux fois pendant tout ce temps-là, deux années qu'on n'a pas présenté de festival, mais qu'on travaillait sur trouver de l'argent, reprendre l'énergie, etc. Donc ça fait 40 ans et plus.
Est-ce qu'il y avait un contexte politique à l'époque, dans les années, début des années 80? J'ai quelques souvenirs, René Lévesque, où j'étais très jeune. Est-ce que ça a joué?
Non, c'était plutôt l'ouverture. Ben ça a joué dans le sens qu'il y avait une affirmation de la culture québécoise. Beaucoup d'artistes étaient politisés, prenaient le côté évidemment de l'indépendance du Québec. Donc il y avait un climat idéal pour aider les idées culturelles. Nous, le départ était peut-être un peu difficile, mais d'aiguille en aiguille, de fil en aiguille, bon, le maire, le député, les programmes gouvernementaux, il y avait plus un climat, un climat favorable à l'éclosion, à la promotion de la culture. Bon, mais une culture comme ce qu'on prenait, ça a causé beaucoup de on a choqué beaucoup de monde, on a bouleversé la vie de beaucoup de gens. On était très proche de la communauté ici. Je veux dire, si quelqu'un n'a pas aimé un concert ou a été scandalisé, il y a eu des scandales, toutes sortes de choses. Il y a eu un homme nu. Le premier festival, il y a eu Montréal Transport Limité. Il y avait un mélange théâtre et musique. Puis il y avait un comédien qui a traversé la scène tout nu. Puis bon, ça s'est retrouvé au conseil municipal, puis etc. etc.
Alors, tu parles d'aide financière. Est-ce que ça a évolué? Comment ça a évolué? Je te demande ça parce qu'en France... ça devient très dur pour la culture. Ça ne sert plus à rien, ça ne les intéresse plus.
Ben, on n'a pas atteint ce niveau-là. Il y a des choses qui sont tombées. La radio, qui était très importante pour le développement du festival, puis la diffusion du festival. Au moins, Radio-Canada a enregistré près de la moitié des concerts à Victo, puis c'est de coast to coast, d'une côte à l'autre. C'est quand même un grand territoire. On a récupéré beaucoup de bandes pour faire des disques. On a créé les disques Victo avec ça. Ça tombe. Ça tombe comme un peu partout, chez vous aussi. Quand même, ça se maintient, je dirais. Ça s'est maintenu à un niveau respectable. Il y a toujours l'ouverture des gouvernements. C'est souvent, des fois, la municipalité là, qui a le changement, le premier rapport politique qui peut changer aux 4 ans, disons. C'est plus là qu'on a vu les différences de pour et de contre ou de moments plus difficiles. Avec la avec la pandémie, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'aide pour lancer. Au contraire, tu sais, peut-être de chez vous, je ne sais pas, mais ici, on n'a pas coupé dans les programmes, on n'a pas eu besoin de faire de subventions, de renouveler nos subventions, nos demandes. On faisait une extension. Il y a eu des programmes inattendus pour aider. Beaucoup d'argent a été mis aussi au niveau de la création pour les artistes. Et c'était très bon pour ceux qui fallait pour les compositeurs, pour les gens qui ont créé des nouveaux spectacles, théâtre, etc. Tout ça. Mais les créer puis pas les diffuser, là, ça crée une autre problématique.
C'est ça le problème. Quelques mots sur le label Victo, tu l'as un petit peu évoqué. Ouais. S'agit-il, moi je sais, je suis pas sûr, s'agit-il de exclusivement de concerts enregistrés ici?
Ici, non, pas exclusivement, mais en grande majorité. En grande majorité, on a quelques, je dirais une 15% des bandes, 15-20% des bandes qui viennent de musiciens qui ont enregistré ailleurs, en studio, et des musiciens québécois aussi, canadiens, qui ont des bandes comme ça, mais une grande majorité, c'est des concerts. Ouais. Parce que quand Radio-Canada est parti, là, nous, on a enregistré les propres concerts par nous-mêmes. Ouais. Et bon, de toute façon, on sort un disque par année depuis 10 ans.
Voilà, puisqu'il en a parlé, on vient d'écouter Fred Frith, le fameux duo avec René Lucier sur ce disque Nous Autres, qui fut la première référence du label Victo, qui en compte désormais 135. Le titre, c'était The Same Wide Wall. René Lucie était présent d'ailleurs au FIMAV en tant que spectateur, tout comme Pierre Tanguay, Martin Tétrault également. Ça faisait plaisir de revoir tous ces Québécois qui ont fait les beaux jours des festivals français dans les années 90-2000, Jazz à Mulhouse, Vendeuvre, les Nancy ou même Sons d'hiver. On avait la chance de les voir à l'époque en France. C'est quand les festivals avaient un peu de sous, peut-être. Alors, Fred Frith, quant à lui, était sur scène. Et ça nous a fait plaisir de voir son bassiste et son batteur, qui sont excellents. Voilà. On poursuit la discussion avec Michel Levasseur.
Nous, on a connu au festival de Vendeuvre ou de, Jazz à Mulhouse à l'époque. On a connu René Lucier, Pierre Tanguay, les Daron, Martin Tétrault, Joanne Etu. Et on ne les voit plus du tout, en fait. J'ai même demandé il y a peu de temps à Martin Tétrault s'il continuait la musique. Enfin bref. Et je voulais savoir, qu'en est-il aujourd'hui des musiques, on va appeler ça non commerciales, au Québec? Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est tombé en désuétude? Ou est-ce qu'il y a une vraie vitalité?
Ah, là, il y a une vitalité. Ah oui, il y a une vitalité. Ça, c'est certain. Beaucoup, c'est pas les mêmes musiciens qui sont invités. Là. Il y a plus une tendance sur les ensembles de musique contemporaine, plus le quatuor Bozzini. Le quatuor Bozzini, c'est un quatuor à cordes. Quasar, qui est un quatuor de saxophone. De la musique électronique aussi. Il y a moins de musiciens que vous avez nommés, là, René, puis tout ça. Ça va recommencer. Je pense que Ambiance Magnétique, là, Super Musique, l'ensemble est parti. Ici, il y a Éric Normand à Rimouski avec le Grill, qui fait des événements récurrents chez lui, qui invite des musiciens, surtout français, mais des musiciens étrangers, surtout français, à venir en résidence ici, travailler avec son orchestre. Lui, il a réussi dans les dernières années à faire traverser son ensemble, le Grill. Donc,
nous l'avons interviewé pour l'émission.
Vois-tu, il y a un renouvellement. Puis je pense que c'est moins visible en Europe, cette scène-là. Cette scène-là est moins visible en Europe. Mais bon, je pense que Eric vient de la même lignée. Oui. Puis on voit qu'il y a une belle énergie là. Je pense que c'est on voit pas beaucoup non plus dans certains festivals comme Victo. Bon, puis il y en a pas des tonnes en Amérique non plus. Hein. Comme là présentement, je viens de présenter des concerts en première nord-américaine de français. Oui. Tom Malmandy, c'est un Belge au départ. C'est un Belge. Au départ, en tout cas, il était...
Alors, on dit Émilie Schkriegel.
Ah, en tout cas, c'est un des noms les plus compliqués que j'ai eu à prononcer dans
c'était
toute ma
super
carrière.
Concert, hein.
Super, bon concert, hein, super.
Bah, les quatre concerts que j'ai vus pour l'instant, c'est super. Hein. Bravo à toi. Alors, justement, c'est ta dernière année. Pour quelle raison quittes-tu le festival?
C'est moi et ma conjointe, Joanne. Elle est ici avec nous depuis 87, puis à temps plein depuis une quinzaine d'années, là, quand les enfants sont partis. Puis moi, j'ai 70 ans aussi. Bon. Je ne savais pas quand est-ce que ça arrêterait tout ça. Je me réénergisais après chaque festival. Ça prenait un mois ou deux maximum, puis on était prêt à refoncer. On avait pris l'énergie créative, l'énergie de la musique, puis ça nous remettait sur rail pour une autre année. Présentement, depuis 3 ans, là, 3-4 ans, on est rendu au mois d'août, après le festival au mois de mai, puis on est encore fatigué, on récupère moins. Puis la pandémie a été très difficile au niveau du stress à ajouter pour tous ceux qui travaillent en culture, ça c'est évident, puis dans d'autres domaines aussi pour tout le monde, la terre entière, mais Pour nous, on a annulé un festival à 6 semaines de son départ. En 2020, on est annulé au mois d'avril, donc 5 semaines avant le festival. Après ça, le 2021, on a fait une programmation entièrement en présentiel, finalement, avec notre plan B, avec tous les artistes. Au mois de mars, on a sorti notre programmation. On avait deux, une programmation internationale et une programmation seulement canadienne. Avec notre programmation canadienne, on a été le premier événement en Amérique du Nord au mois de mai 2021 à faire des concerts en présentiel, mais en pleine pandémie, avec la distanciation de 2 mètres entre chaque personne, avec le masque tout le temps, avec un couvre-feu à 9h30 le soir, avec des grandes salles de 700-800 personnes, puis on pouvait en rentrer seulement 100-125 à cause de la distanciation et tout et tout. Même ceux qui arrivaient d'une zone rouge, aussi, il y avait des zones rouges, jaunes, oranges et tout, mais zone Montréal, les Montréalais qui venaient à Victoriaville, ils pouvaient pas manger au restaurant, il fallait qu'ils prennent un prêt à emporter, toutes sortes de règles incroyables. Puis la santé publique qui était dans notre coup ici, puis qui voulait nous fermer à la moindre éclosion. On l'a fait sans éclosion. On a présenté 2022 toujours en pandémie, avec des règles encore, mais moins fortes. Ça a été très... ça l'a amplifié, disons, le processus. Puis ça fait qu'on est rendu à un moment de notre vie, je pense, là, qu'on a comme besoin de faire attention à notre santé, prendre du temps pour s'occuper de nous autres un peu plus. Puis en espérant trouver une relève, évidemment. Puis on est là jusqu'en décembre, on se dit, au plus tard. Moi, je me dis, décembre, on espère trouver des gens pour prendre notre place là, pour le mois de septembre, disons, là, septembre. Puis on va les accompagner pendant 3-4 mois. Puis en décembre, on laisse ça à quelqu'un d'autre. On espère trouver. Depuis quelques années, on annonce des postes d'adjoints, de co-direction et tout. Et le milieu ne répondait pas. Le milieu de la musique actuelle, de la musique d'avant-garde du Québec, est cantonné beaucoup à Montréal, hein, Montréal et Québec, dans les grands centres. Et les gens voulaient pas déménager ici. Certains ont essayé, puis il y a comme un élastique dans le dos, hein, qui te ramène badang 6 mois, 8 mois après à Montréal, ou dans ton milieu qui est effervescent au niveau culturel, évidemment. Donc, puis là, depuis qu'on a annoncé qu'on arrêtait, nous, là, le milieu, ça a fait une traînée de poudre. On a eu des centaines de messages. C'était très émouvant, tout ça. Puis les gens veulent que ça continue. Tu vas sentir, là, il y a beaucoup de gens qui viennent là, cette année en espérant que ce ne soit pas le dernier, mais ils viennent encore puis pour nous dire merci, puis tout ça. Puis il y a une très belle énergie. C'est très émotif, hein, je pense aussi, on le sent, là. Puis, donc, là, il y a des gens qui appliquent, là, ou qui envoient des lettres d'intention, puis qui réfléchissent présentement, puis on s'est dit, on y va tranquillement. Les gens savent que les postes sont ouverts. Moi, je fais des entrevues, puis il y a beaucoup d'entrevues qui sont sorties sur ce point-là, donc tout le monde est au courant. Il y a même des amis européens qui sont en réflexion. Parce qu'on se connaît bien quand même, tout un petit milieu dans le Mulhouse, comme tu parlais, Vendeuvre, tout ça, c'est des amis. Je suis allé souvent dans ces festivals-là, Wells en Autriche. Plein d'événements. C'est un autre point aussi. Dans les 3 dernières années, j'ai pas voyagé du tout. J'ai été à Densité au mois de septembre. C'était dans le coin de Verdun. Là. J'allais à Densité au mois de septembre 2022. Puis avant ça, c'était Wells 2019, novembre 2019. Tu peux pas faire des programmations sans voyager, sans aller voir des festivals, aller voir des musiciens sur scène, puis échanger, tout ça. Fred Fritz, ce matin, en conférence de presse, je ne sais pas si tu étais là, a dit la même chose. Il dit, c'est très important, les gens qu'on parle pas assez du côté positif des événements pour les musiciens, parce que c'est très important d'entendre des sons nouveaux, des nouvelles performances, de rencontrer des gens, de finalement peut-être travailler avec d'autres musiciens et tout. C'est comme ça que ça se fait, c'est en étant présent à quelque part ensemble. Donc ça aussi a accéléré le vieillissement.
Et ben le festival Victoriaville va continuer alors. Merci beaucoup.
Oui, j'espère. On
merci
espère
beaucoup,
tout
Michel.
Le monde. Merci.
Thank you.
À l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au festival FIMAV de Victoriaville. Bravo à Michel Vasseur, sa compagne, à Jordi, on les salue. Bravo à eux pour ce festival depuis toutes ces années. Bonne continuation à eux et en souhaitant que le festival perdure, bien évidemment. Alors on vient d'écouter Al Roeber Orchestra, disque sorti chez Victo, donc le label de Victoriaville, en 2002. Il s'agit d'un grand orchestre de Vancouver qui existe depuis 1990, formé par John Corsud, qui écrit des musiques, mais l'orchestre fait volontiers appel à des compositeurs, tels René Lucier ou Jean de Rome, sur ce disque, qui s'intitule Rob Harder. On a écouté un titre qui s'appelle Time Waits, avec la clarinettiste basse Laurie Friedman, qui était également au programme du Festival de Victoriaville cette année, le samedi soir. Concert très particulier, du jamais vu même. Peut-être cette impression parce qu'on sortait avec Christophe du restaurant indien, dans lequel nous avions apporté deux bouteilles de vin, une chacun, puisque quand c'est indiqué sur la porte ou sur la devanture du resto, on peut amener son vin au resto, ce qui fait qu'on était très à l'aise pour écouter les derniers concerts du samedi soir. Bref, je vous propose de poursuivre l'émission avec Camille Brisson et Isabelle Clermont. Elles se produisaient le deuxième jour du festival, le vendredi à 17h. L'entretien a été réalisé le lendemain de leur concert-performance qu'elles vont nous décrire, parce que c'est pas un simple concert. Isabelle est harpiste, Camille est flûtiste, mais elles ont plus d'une corde à leur harpe, car elles sont aussi plasticiennes, elles évoluent dans les arts visuels, et leur show, comme on dit là-bas, relevait plus de ce qu'on appelle ici performance. L'enregistrement s'est fait dans la cafétéria du Carré 150, un des deux lieux de concert du FIMAV, du festival de Victoriaville, ce qui explique l'ambiance sonore.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, je voudrais savoir quelle a été la généalogie de ta formation artistique. Par quoi as-tu débuté? Quel a été ton cheminement? Et peut-être tu peux nous dire toutes les facettes de ce que tu fais de créatif.
Oui.
Excellente question. J'en ai long à dire. D'accord. Alors, je vais commencer. J'ai grandi dans la musique, dans toutes ses sphères. Donc, j'avais une maman musicienne, bassiste, et un papa chanteur, guitariste. En fait, j'ai deux papas. Donc, le papa qui m'a élevée chanteur, guitariste, et un autre père qui est mon père biologique, avec qui j'ai grandi plus dans le côté sportif. Fait que j'ai une formation d'athlète et aussi de musicienne et puis d'art visuel. Donc j'ai fait mon parcours en art plastique à l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai poursuivi une maîtrise à l'Université Laval et une année en doctorat, toujours en art et en musique. Donc, j'ai aussi lié l'activité sportive lors de mon mémoire de maîtrise. Donc, c'est un peu mon parcours en grosso modo.
Alors, j'ai pu remarquer hier que ce que tu faisais était assez proche aussi de ce qu'on appelle nous, je ne sais pas si c'est le cas ici, de la performance.
L'art action, oui.
Ouais, est-ce que c'est en lien justement avec une interrogation sur le corps par rapport au côté athlète?
Oui, mais ça m'a toujours habité, donc ouais. Je ne dissocie pas l'un et l'autre. C'est les deux facettes s'imbriquent en fait dans ce que je suis. Donc, j'aborde toujours l'art d'une manière totale, que ce soit de le visuel, l'auditif, l'immersif, l'installation. Donc hier, ça se déployait aussi dans une sorte d'installation immersive où il y a des tableaux vivants, bruitistes qui se déploient.
On va y revenir.
Ah oui, d'accord.
Je vais poser la même question à Camille. Alors Camille, quelle a été ta formation, ton cheminement, et dans quel domaine artistique évolues-tu? Parce que je crois qu'également, tu ne te contentes pas d'être seulement musicienne.
Non, je crois qu'on se rejoint en ce sens qu'on déborde un peu des frontières. Pour ma part, j'ai cheminé au travers du réseau public. Donc, j'ai eu la chance d'avoir à l'école publique des cours d'initiation à la musique classique très jeune. Ce qui était somme toute nouveau, parce qu'avant c'était plutôt réservé aux conservatoires ou aux formations de plus réputées. Et puis j'ai évolué par la suite au secondaire, au cégep, au collégial, où j'étais toujours pas capable de me contenter d'une seule chose. J'ai donc fait deux parcours en simultané, donc un vers les sciences humaines, psychologie, sociologie et la musique en parallèle. Très, très tôt, je m'intéressais aux musiques contemporaines, actuelles, formation flûtiste aussi. Le répertoire s'est développé plus tard dans l'histoire de l'art. Donc, assez tôt, j'ai découvert Messiaen, Stravinsky, ces choses. Et puis, j'ai poursuivi par la suite à l'Université de Montréal en musique classique, interprétation, profil flûte contemporaine. Et puis, ben encore là, j'étais pas capable de me résoudre à une case, donc je continuais en parallèle des cours en auditorium, en sociologie, en psychologie, aussi loin que faire se peut, parce qu'il n'y a toujours que 24 heures dans une journée. Mais, et puis, ben éventuellement, j'ai eu un événement qui a un peu chamboulé les choses. J'ai toujours eu des loisirs artistiques en art plastique que j'avais dû laisser de côté par mes implications très prenante. J'avais dû faire des choix aussi pour me démarquer en interprète. Il y a une compétitivité très forte mondiale maintenant, donc c'était un parcours qui nécessitait une dévotion, une dévotion totale. Et puis, à la fin de mon bac, moi, je me suis fracturé le poignet. C'était un accident tout bête, mais ça a été assez confrontant, disons. Ça a fait beaucoup de remises en question. Et puis, je me suis un peu détachée de cette formation classique-là, puis je me suis repermis, en fait, de sortir des cloisons, des cadres, de ramener les arts visuels, de m'impliquer aussi à titre de travailleuse culturelle. Puis, de là, c'est développer un parcours autodidacte, la pratique que j'ai maintenant.
Et alors, peut-être, Isabelle, on n'a pas dit que tu jouais de la harpe.
Oui,
c'est ça.
Élément assez important. Détail. Ben oui, détail pour lequel je suis quand même au FIMAV. Donc, en fait, je reviens un petit peu sur quand j'étais enfant. J'ai appris le piano d'une manière classique. Donc, à 4 ans, je faisais déjà mes classes. Et puis, donc, tout le temps de mon enfance, mon adolescence, c'est le piano qui m'a habité. Et la harpe est arrivée dans ma vie d'une manière surprenante, en fait. C'est lors d'un passage au FIMAV, il y a vraiment plusieurs années. J'ai vu une harpiste sur scène et je me suis tout de suite projetée en elle parce que la harpe et le piano, c'est une transposition finalement de l'horizontalité et la verticalité. Et j'ai eu très, très envie d'apprendre un autre instrument. Et voilà, c'était un coup de foudre.
Alors, qui était cette harpiste?
Zina Parkin.
Zina Parkin, bah oui. Et alors, plus tard, j'avais la question de vous poser, est-ce que le FIMAV a été important pour vous? Donc, j'imagine que oui.
Oui, ben absolument, comme j'ai évoqué à plusieurs reprises, je me suis visualisée dans cet artiste-là, mais aussi sur la grande scène, parce que je trouvais ça hyper impressionnant, mais j'ai nourri cette envie, ce désir de faire partie aussi de la grande histoire du FIMAV, quoi, d'être de passage pour ensuite aller vers autre chose.
Et pour toi, Camille, également, c'est important ce festival?
C'est important d'y être, mais en fait, j'ai une vision totalement différente d'Isabelle dans le sens que moi, j'avais quand même eu une pratique où j'étais déjà surnuméraire dans des grands orchestres, j'avais connu des grandes scènes et puis je m'étais dissociée de ça puis j'avais un peu fait un deuil, peut-être de cette forme du réseau professionnel des grandes scènes. Puis j'avais une pratique qui était beaucoup dans l'insocius, dans l'institut, un peu en marge. Puis un concours des choses l'a fait, on s'est retrouvés au FIMAV, puis j'y croyais plus, en fait. Je me disais, maintenant, j'ai emprunté une nouvelle voie, puis c'est correct aussi. Donc, ça a été un très beau choc.
Très bien. Alors, vous avez des carrières. On n'aime pas tellement le mot carrière, nous, mais bon, on va dire comme ça. Des parcours, tout simplement, séparés. Mais ce que j'aimerais savoir, moi, c'est comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a fait que vous êtes associés?
Excellente question. Disons que c'est par les réseaux sociaux.
Entre autres.
Donc, ayant une démarche en art visuel et Camille travaillant donc dans un centre en art actuel, a eu un intérêt pour ma création 2D. Puis la communication est venue plus de ta part, je crois. Puis on a commencé à échanger. Puis les affinités, tu viens de Trois-Rivières, moi aussi, tout ça. On s'est liés, en fait, d'affinité assez rapidement.
Puis je suis également originaire de Trois-Rivières, donc on a aussi des similitudes, des affinités de parcours, on a une historique qui se ressemble beaucoup, puis on avait toutes les deux fait des collaborations avec des personnes similaires sans jamais avoir eu l'occasion de se croiser, on était dans les mêmes rayons, mêmes réseaux, c'était une question de temps, ça allait arriver, c'est sûr.
Alors, vous allez m'éclairer parce que hier, vous avez joué sur le titre collectif tendanciel. Alors, je ne sais pas si c'est un collectif comme nous on l'entend en France, une association de gens dans le but de mutualiser des moyens, on va dire. Est-ce que c'est le titre de votre duo? Est-ce que c'est le titre du spectacle?
Tendanciel, on emploie le terme collectif. Normalement, on ne l'affiche pas nécessairement. On s'identifie simplement comme tendanciel, mais on a choisi un collectif parce qu'on partage l'autorialité totale de toutes nos créations. Puis aussi, on a un collectif dans le sens qu'on collabore. On a une démarche artistique qui est... on est comme une entité fusionnelle avec on a chacun des démarches artistiques différentes de recherche multidisciplinaire, mais on en a une qui s'est créée au fil de nos collaborations et puis qui se développe en art visuel, en art sonore, en art performance. Donc, on a des projets de recherche qui ont leur démarche très propre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi collectif plutôt que duo, band, groupe.
Donc, en fait, il y a des portées rhizomatiques à tendanciel. Donc, justement, pas juste en art de la scène, mais aussi en art de l'installation.
Oui. On est beaucoup dans l'art médiation aussi. C'est quelque chose qu'on partage.
Et pourquoi ce nom tendanciel?
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas?
Ça va. Thank you.
Yeah.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Et on vient d'écouter Isabelle Clermont et Camille Brisson, un extrait de Déphasé, un de leurs travaux précédents. C'est un extrait totalement musical qui n'est pas issu de la performance qu'elles ont faite à Victoriaville. On écoute la suite de l'entretien qu'elles m'ont accordé au festival. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui n'y étaient pas, il va falloir quand même décrire un petit peu avant d'en parler le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous le décrire brièvement? Il y a trois parties.
Oui.
Trois tableaux.
Alors, je vais débuter avec le premier. Donc, sur scène, il y a une maquilleuse, donc le meuble. Il y a un îlot central, une table en bois avec des éléments, un instrumentarium sur lequel il y a des accessoires de cuisine. Et il y a une chaise vintage. Donc, la scénographie s'explique un peu comme ça. Donc, je vais revenir sur vraiment le premier tableau. Camille est assise à sa chaise, donc va bruiter des colliers. Et moi, à mon micro, dans le noir, je bruite aussi. Et tranquillement, donc une minute en fait... le focus sur Camille, elle se lève pour aller donc à son autre espace. Et moi, je continue toujours dans le premier tableau à accumuler tout ça. C'est des couches, donc on travaille avec des loupeurs. Donc Camille loupe de son côté, je loupe du mien avec beaucoup le bijou, la perle, les colliers un peu plus percussifs.
On pourrait dire de la quincaillerie, on dirait. C'est-à-dire,
Oui, mais de la, tu sais, on aurait pu avoir des bruits certainement plus efficaces en utilisant d'autres objets, mais l'aspect art performance, art visuel, multidisciplinaire aussi, en fait, c'est des objets extraits de la quotidienneté, c'est de beaucoup aussi, je pense que le premier tableau représente un certain aspect de l'intimité, hein, la chaise, peut-être la chambre, le boudoir, la maquilleuse, donc.
Peut-être faut préciser aussi vos vêtements qui sont pas ceux que vous portez aujourd'hui.
Oui, le jeu détail, donc, jouer sur les codes des belles femmes qui jouent de la belle musique avec des beaux instruments. Donc, c'est très, très cliché, la paillette, le glamour et l'accumulation de strates. Il y en a beaucoup. Et à travers ce tableau-là, il y a aussi l'accumulation de mots.
De pensées, de réflexions.
De pensées un peu... On s'écoute sans s'écouter, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la mienne? Mais toujours avec des références à la femme qui doit être bien mise, qui doit bien accueillir, bienveillante. Et...
La dualité dans cette féminine, je crois aussi, en le sens que on veut se revendiquer libre, on veut se revendiquer un peu féministe, mais en même temps, on aime bien une coquetterie, on aime bien recevoir. Donc, cette espèce de... C'est beaucoup de questions, en fait. C'est pas du militantisme. On revendique pas nécessairement quelque chose. C'est plus de l'ordre de vraiment, on se questionne notre position, les constructions sociales autour de la féminité. À quel point nous, on les embrasse, où elles sont imposées, où la frontière est ténue entre les deux. Puis comment ça évolue dans le temps. Ce qu'on juge, ce qu'on critique, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas aimer aussi. Puis, la robe de pâle, les rituels propres à la femme. Oui. Puis quelque chose qui est un peu un humour entre Isabelle et moi, c'est souvent sur une programmation, les gens voient un duo flûte et harpe et s'attendent à quelque chose, à une harpe ornée avec des chérubins, de la feuille d'or, quelque chose de champêtre. Là, il y a comme
l'aspect mariage, la belle image, de la belle musique gentille.
Faut s'accorder au décor. Combien de fois on a fait des contrats corporatifs pour gagner notre vie, puis on se fait demander, ah, si vos robes pourraient être dans le ton,
si vous pourriez fitter avec l'ambiance et jouer. Donc, tellement harmonieux et tout. Et voilà que rapidement, on se rend compte que, oh, c'est pas du tout très harmonieux, là.
Alors, effectivement...
Ça se déglingue,
oui. Et dans un deuxième tableau, vous jouez.
Oui, voilà.
Vous jouez de vos instruments, à savoir la harpe et la flûte.
Mm-hmm. Ouais.
mais bon, pas tout à fait comme on l'attend.
Non, exactement. Donc, on est dans, on l'appelle l'ambiance dérangeant. Donc, on a une amorce, justement, plutôt discrète, gentille, mais rapidement, on entre dans nos instruments d'une manière bruitiste, percussif, ouais. Mystérieux, malaisant, sous tension. Donc, on s'alimente l'une et l'autre dans ce qu'on s'échange dans nos sons.
On tombe dans le côté peut-être plus introspectif aussi, si on remet en contexte le récit de l'œuvre. Peut-être au début, on verbalise certaines choses, mais des fois, à un certain point, on arrive à un degré, après le premier tableau qui se termine toujours dans une forme de cacophonie, on arrive dans l'endroit où verbaliser n'est plus nécessaire, dans des sentiments qu'on n'arrive pas à mettre en mots, donc où l'instrument, où l'art vient combler une forme de langage qui traverse.
Et donc le dernier tableau, il serait très très en vogue en France en ce moment,
les casseroles.
Ouais. Alors peut-être vous pouvez décrire ça aussi.
Ben encore dans ce tableau, toujours dans l'esprit de la méditation, donc le espèce de bol tibétain de vibration où on se retrouve après avoir causé un autre chaos dans le tableau numéro 2. Tableau numéro 3, on se retrouve l'une à côté de l'autre devant tout l'instrumentarium de chaudronnage et on se replonge dans l'introspection de vibrer en même temps.
De devoir revenir à nos chaudrons. On s'est ému à bas tous les jours, on se nourrit, on recommence à faire à manger, on a beau détester ces choses-là, on y retourne en cuisine pareil à tous les jours. Ouais. Puis on est encore là tiraillé entre est-ce qu'on est enchaîné à la cuisine ou c'est nous qui nous y rendons. On y revient, c'est quand même aussi un safe space pour dans le nid familial, dans une maison, c'est le territoire de la femme aussi. Ben, on est toutes puissantes dans notre cuisine, mais en même temps qu'on sent un peu la charge de l'occuper. Puis pour un peu mettre le décor, en fait, on a décidé, on aurait pu encore là utiliser n'importe quel support. On a choisi une vraie table en bois, un peu intemporelle, une vraie table de cuisine qu'on a un peu trafiquer pour lui donner les dimensions qui conviennent, mais on voulait aussi déployer à l'aide de la crémaillère cet instrumentarium, mais peut-être qu'on peut expliquer les origines de ce tableau-là. La première création où on exploitait un peu ça, ça se passait dans des réelles cuisines chez des gens, c'était vraiment une socius dans un appartement.
Exact.
Donc on a mené des enquêtes, on se rendait chez des étrangers, on lui posait sous forme d'une discussion décontractée des questions, des rapports sont des femmes, c'est quoi leur rapport à la cuisine, des anecdotes, des anecdotes familiales, des fois des recettes transmises de génération en génération. Puis après, les gens nous laissent fouiller dans leurs armoires, leurs chaudrons.
Utiliser, en fait, leurs chaudrons de prédilection.
Charger.
Par exemple, t'as un wok dans ton armoire que tu n'ont pas trop utilisé, mais que tu gardes quand même. Donc, toute la charge émotive vient avec et la confidence.
L'idée transgénérationnelle aussi, hein, la transmission autour de la cuisine, les recettes familiales, les historiques. Mm-hmm. On peut en apprendre beaucoup en fouillant dans la cuisine des gens aussi sur les classes sociales, sur toutes sortes de choses.
Ouais. Ce que je comprends, c'est que vous avez aussi des préoccupations d'ordre, on va dire, sociologique.
Oui, hein? Absolument. Quand même.
Et justement, alors, on se demande, avec les gens, les copains qui en parlaient, on se demandait, est-ce que c'est... Parce que là, tu viens de dire que vous aviez fait je pense, comme vous dites en québécois, des shows, des performances chez des gens, chez des habitants.
C'est toujours en cours, en parallèle, recherche. Ouais.
Parce qu'on se demandait si c'était adapté, en fait, à la salle de spectacle avec un rapport frontal. Tu vois, chez nous, par exemple, les performances, c'est plus, au centre, les gens sont autour, ils viennent, ils déambulent. Enfin, je sais pas, quel est votre rapport à ça, au fait de montrer, à la monstration,
en frontal. Est-ce que c'est quelque chose que, bon, bah, ça se fait comme ça ici, donc vous faites comme ça?
C'était propre au FIMAV, en fait. Oui, parce qu'à l'origine, c'était dans des lieux immersifs. On avait même un aspect participatif toujours différent. On fait beaucoup de la co-création autant avec les publics, dans notre pratique d'art médiation. On est vraiment dans le relationnel aussi. Et puis là, bon, quand on s'est fait annoncer qu'on viendra au FIMAV, à l'origine, ça devait être dans un colisée. Nous, on avait, tu sais, on jouait l'ampli sur le four. On jouait dans des micros, aux endroits, lieux. Et là, il a fallu apprendre à se déployer. Donc, on a fait une petite recherche en scénographie, comment se déployer. Puis, on savait que le contexte du FIMAV a forcément une distance entre la scène,
tout à fait, le rapport
au public. C'est plus difficile. Comment aller chercher cette intimité-là? Donc là, on a augmenté le jeu théâtral, on s'est déployé, puis on a amené, on a extirpé des objets du quotidien à qui tout le monde a un rapport. Peu importe le pays, peu importe les origines, une table de cuisine, on a toute une charge émotive reliée à ça.
Justement, pour que les spectateurs se raccrochent à ces éléments-là. Ah oui, j'ai ça chez moi. Une maquilleuse. Ah oui, une chaise comme ça. Puis, donc, on n'a pas pu entrer dans cette proximité-là, mais par le visuel de notre scénographie, on espère que chacun a pu y trouver son compte.
Alors, dans les thèmes dont vous parlez, il y a la question de la place de la femme. Alors, en France, depuis MeToo, il y a une forte prise de conscience concernant la présence des femmes sur les plateaux. Et la question se pose autant au niveau institutionnel, tu vois, pour donner des sous dans les institutions, qu'au niveau des programmateurs de festivals et de salles. Ou même des ensembles de musiciens. Maintenant, ils font gaffe à prendre des femmes. Mmh. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous vivez ici au Québec. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que ça évolue bien?
Ben, je pense que la parité,
il y a un effort certain.
Ouais, il y a un effort certain, là, homme-femme, et, je pense qu'elle est de plus en plus là, puis que des événements comme MeToo, ça permet donc l'inclusion, mais aussi toutes les communautés, donc LGBTQ+, et tout ça, le trans, et donc l'inclusion de pas juste homme-femme, mais de tout être...
Des communautés.
Des communautés, exactement.
Mais moi, pour être aussi travailleuse culturelle dans un centre d'artistes autogéré, c'est une formule assez propre au Québec, là. C'est un centre d'art où on fait la recherche, des résidences de recherche création. Et collaborer avec beaucoup de centres de recherche, c'est toujours des travailleuses, en fait. Le ratio, c'est beaucoup des femmes qui vont être les travailleuses, puis c'est les pas des salaires qu'on s'entend dans le milieu artistique qui sont à tout casser. Donc, on se pose des questions un peu. Toutefois, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'ouverture, parce que pendant longtemps, c'était qui les artistes qui étaient plus en mesure de partir en résidence de recherche création? C'était beaucoup plus des hommes. La tendance se renverse. On voit même des collectifs de familles qui décident pour que tout le monde y trouve son compte. Après, dans le milieu des musiques actuelles, c'est sûr que les métiers des arts de la scène, il y a une plus grande propension d'hommes.
Ouais.
Puis les organisateurs essayent beaucoup d'aller chercher la parité, mais il y a un rattrapage pour augmenter le bassin de femmes, pour leur permettre de concrétiser cette parité-là, fait. Là. Donc, mais c'est pas faute de volonté, je crois.
Ouais, ouais. Alors, avez-vous d'autres projets en commun en dehors de cette performance, dont le nom est
Tendanciel,
c'est le collectif.
Oui. Absolument. Donc, ce n'est pas la fin, loin de là. Donc, au calendrier, il n'y a pas de date spécifique, mais nous avons appliqué pour des subventions afin de poursuivre notre recherche en collectif et puis éventuellement continuer à se produire et autant sur scène que dans notre élément rhizomatique installatif.
Oui, ben là, c'est ça, on est somme toute un jeune collectif, donc forcément, dans les derniers mois, on a concentré notre énergie à déployer pour le FIMAV, la version scénique, là, évidemment. Mais sinon, on poursuit toujours en parallèle là, notre recherche. On a un corpus visuel, là, on est dans la phase de recherche-création, donc on prototype des choses. Puis c'est souvent, c'est des choses qui vont être extraites, c'est des objets témoins. C'est un peu comme une enquête artistique, là, le corpus visuel de nos processus et une socius qu'on a fait. Donc des objets témoins, des dérivés, des traces, des mémoires. Donc c'est sûr que là, on n'est pas arrivé à la... On est encore... c'est un cheminement qui est quand même assez long, mais on a quand même quelques concerts qui se poursuivent. Puis là, on va prendre un nouveau site de recherche, création, qui se déploie normalement autour de... sur une année.
Oui.
Et avez-vous séparément des projets, des travaux? Isabelle, je te
laisse. Oui, bien sûr. Ben, donc, je viens de terminer une résidence de création avec le Grill, donc le grand groupe régional d'improvisation libérée qui est situé à Rimouski. Donc, ça fait presque 5 ans que j'ai intégré le groupe. Donc, je suis aussi chargée de projet pour le groupe. Et puis, il y a l'ensemble Super Musique également, qui est basé à Montréal, pour lequel j'ai d'autres contrats à venir. Et donc, cet automne, ça se poursuit.
Très bien. Toi, Camille?
Oui, bien, en ce qui me concerne, j'ai l'occasion d'habiter au Saguenay, où il y a le Centre d'expérimentation musicale, qui est un centre d'artistes spécialisé en musique de création, musique actuelle, qui reçoivent énormément de musiciens, de créateurs en résidence. Donc, j'ai l'occasion de repartir au projet, de collaborer, de faire de la co-création avec un beau réseau d'artistes internationaux grâce au SEM. Puis en parallèle, des projets en art visuel aussi qui vont être exposés à l'automne.
Thank you.
Alors Isabelle en a parlé, on vient d'écouter le Grill, avec deux G, Grill, G-G-R-I-L, le grand groupe régional d'improvisation libérée, dont nous a parlé également Michel Levasseur tout à l'heure. Alors nous les avions interrogés lors de leur venue à Paris en 2016, et notamment le bassiste et créateur actif, membre actif du collectif, Éric Normand. On termine l'écoute de l'entretien avec Isabelle Clermont et Camille Brisson.
J'avais une question parce que toi tu as parlé, Camille, d'un travail dans la médiation culturelle. Et est-ce que au Québec, les musiciens sont professionnels? Ont-ils des statuts de professionnels? Peut-on vivre de sa musique, par exemple?
Ça dépend. Je crois que oui, on peut vivre en étant musicien et en étant appuyé surtout par beaucoup de bourses. De création.
Il y a quand même beaucoup d'appels, peu d'élus,
oui,
là.
Parmi,
on ne se le dira pas, c'est pas un chemin facile. Il y a la notion de musicien professionnel ou d'artiste professionnel, même décloisonné. Entre autres, les centres d'artistes permettent de. Vont auprès des bailleurs de fonds chercher des sous pour rémunérer les artistes pendant leur recherche et leur donner des droits de diffusion. Donc, pour voir à la pérennité des métiers professionnels. Mais maintenant, il y a un bassin d'artistes tellement vaste, tous ne peuvent pas, surtout si on veut rémunérer décemment, forcément, il y a un concours qui se présente, mais on a les conseils des arts, tant provincial, fédéral qu'au municipal, pour lesquels on peut appliquer puis obtenir des soutiens, ce qui est quand même fabuleux là au Canada qu'on retrouve. Mais encore là, il y a pas la notion de mécène ici.
Exactement.
Il y a pas la notion de fond. Donc, c'est vraiment plus difficile. Faut être créatif.
je pense que plusieurs musiciens qui sont multidisciplinaires. Donc, Camille et moi, on a cette particularité-là. Donc, on œuvre médiation, chargée de projet, musicienne, artiste visuelle. Donc, plusieurs contrats dans des sphères créatives, mais qui permettent finalement de...
Nourrir la pratique.
Oui.
Après ça, il y a des choix propres à chacun. Ouais. Moi, j'ai un enfant, donc j'ai choisi d'avoir une forme de sécurité, de pouvoir être médiatrice culturelle, commissaire. C'est quand même... je fais pas la comptabilité ou je travaille pas dans une usine. T'sais, c'est quand même extrêmement bénéfique. J'ai la chance de vivre dans des métiers qui sont vraiment nourrissants.
Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a une spécificité de l'art, de la musique au Québec? Est-ce que vous allez facilement dans des régions anglophones ou même voir aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une, vous n'êtes pas cantonné au Québec?
Non, on ne sont pas cantonnés du tout. Ben, par exemple, si on parle de notre jeune collectif, on n'a pas eu encore la chance de s'expatrier. Mais avec le Grill, par exemple, l'année dernière, on était en tournée européenne. Alors, quand même, 14 musiciens. Nous sommes partis en Croatie, Belgrade.
On n'est pas passé en France.
République tchèque. Oui, mais Metz au début.
Ah, d'accord.
Et Lille en dernier.
Ah oui.
Ouais.
Parce que moi j'avais interviewé Eric en 2016. Tu n'y étais pas, je crois.
Non. Ouais.
Eric, c'était un habitué des tournées européennes.
Oui, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque des musiciens du groupe vont faire des tournées individuelles, ben ça permet de ramifier, de faire des connexions et de nourrir le groupe. Ensuite, que ce soit le groupe au complet qui
bénéficie,
bénéficie des contacts, par exemple, de un.
Mais on se cachera pas là sur la réalité nord-américaine que le territoire est vaste.
Ah ouais.
Donc ça engendre des
frais.
Disons qu'il faut être stratégique puis planifier justement soit une tournée ou un réseau certainement. Et puis